Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Fabrication de faux documents, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Eh bien, on en parle avec Maître Rifan Loukou, il est chercheur en droit. À l'approche de la rentrée scolaire, certains élèves qui ont échoué recourent aux faux bulletins pour monter des classes. La situation est presque pareille dans la production de certains documents officiels, tels que titre de propriété, carte d'identité, passeport. Et pourtant, la loi érige en infraction la fabrication des faux documents en RDC. Quelles sont les sanctions prévues par la loi congolaise en cas de fabrication de ces faux documents? Voilà le sujet qui va être abordé tout à l'heure avec notre invité, Maître Rifan Loukou, chercheur en droit. Nous rappelons le numéro des contacts, appelez dès maintenant pour réagir, pour poser vos questions: 081 890 63 94, ou bien vous pouvez également envoyer un SMS au 081 711 50 01, bien entendu également la page Facebook de Capi Service, sur laquelle vous pouvez bien réagir. Voilà, Maître Rifan Loukou, fabrication de faux documents, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Qu'est-ce qu'on attend d'abord par faux documents?
Voilà, donc merci Marcel. Donc d'abord, nous sommes déjà revenus encore une fois sur ce thème pour éclairer davantage l'opinion, pour alerter davantage nos compatriotes que la fabrication des faux documents, c'est déjà une infraction. Donc la fabrication et l'usage des faux documents. Donc, et la fabrication, ce n'est pas seulement le fait de se tenir à côté d'une photocopieuse et gratter telle mention sur tel document. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi le fait que tu peux aller devant l'autorité compétente, soit le cadastre, ou celui qui délivre le diplôme, ou le secrétaire académique, ou la direction de l'école, et obtenir un vrai document, mais sur base des mauvaises informations que tu as données. Par exemple, tu peux obtenir un vrai bulletin, mais tu donnes des fausses mentions à ce qui concerne ta date de naissance. Ou à ce qui concerne tes origines, tu peux être, par exemple, d'origine de l'Angola, mais tu dis que tu es de l'origine du Bas-Congo, ou bien tu es de l'origine déjà cette mauvaise mention-là, en dépit du fait que le document est signé par l'autorité compétente, rend le document faux parce que dans ces documents-là, il y a une altération de la vérité. Donc, la fabrication des faux documents, ce n'est pas seulement le fait de le faire d'une manière grotesque et grossière, mais également le fait d'induire l'autorité en erreur. Et là, vous êtes l'auteur d'un faux intellectuel, c'est-à-dire le fait d'amener des fausses énonciations. Alors, en général, donc, la fabrication ou la falsification des documents, c'est ce que la loi appelle les faux en écriture et son usage. Et la loi, c'est le code pénal congolais, le code de 1940, qui prévoit à son article, nous sommes dans la section 4 du code pénal congolais, à l'article 64, voici comment la loi prévoit et libelle les choses. Les faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende. De 6 mois à 5 ans et d'une amende ou l'une de ces peines seulement. Ça, c'est l'article 124. L'article 125, je peux dire rapidement, si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'État, dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale pourra être portée à 10 ans. Donc, si le faux a été commis par un agent de l'État ou un fonctionnaire, c'est la même chose. La peine pourra aller jusqu'à 10 ans et une amende. Et la suite, c'est l'article 126, celui qui, dans l'intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux. Ça veut dire, celui qui fait usage d'un document faux, il sera puni comme si c'est lui qui était l'auteur, donc c'est lui qui a fabriqué ce faux-là. Parce que celui qui a fait usage, on ne sait pas celui qui l'avait fabriqué, mais c'est celui entre les mains duquel le document est trouvé. Eh bien, celui-là sera puni comme étant l'auteur de celui qui a, donc comme l'auteur qui a fabriqué ces faux-là. Voilà un peu les quelques dispositions qui prévoient, n'est-ce pas, et punir les faux en écriture ou la fabrication de documents. Donc, les élèves, les étudiants qui obtiennent des bulletins de relevés de cotes faux, ils ont échoué à tel cours, ils ajoutent, il faut des grattages, des surcharges et des bulletins. eh bien, tous ces gens-là, dès qu'ils sont rattrapés par l'OPJ, le policier ou le ministère public, ou le responsable de l'école ou de l'université qui se plaît les amène devant l'OPJ, ils seront punis tel que le prévoit la loi ici.
Ah voilà, maître, vous avez parlé des sanctions, vous avez parlé de 6 mois à 5 ans et d'une amende, et puis pour des fonctionnaires, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Alors dites-nous, maître, pour une personne qui a des faux documents, mais qui ne les a pas encore utilisés, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des faux documents chez lui, mais il ne s'est pas présenté devant un office public, un office de l'État, ou peut-être une école pour utiliser ces documents-là. Est-ce que le peine sera identique avec celui qui avait ces faux documents qui en a fait usage?
Voilà, mais celui entre les mains duquel le document sera trouvé et que ce document-là est un faux, c'est celui-là le faussaire. Mais la loi maintenant, pour être très efficace, c'est-à-dire, si on trouve ces documents-là entre tes mains, donc, par exemple, pour des réseaux d'enquête, lorsque vous entendez que non, le parquet ou les OPJ ont fait une perquisition auprès de telle personne dans sa maison, dans son bureau, et que pendant qu'on fait la perquisition, on trouve plusieurs documents pour la plupart faux. Par exemple, on peut se trouver chez toi un diplôme de doctorat, un diplôme de médecine, un diplôme de licence, un diplôme de graduat, un diplôme d'État, établi au nom de tel, alors que cette personne-là n'a jamais étudié ses études-là, il n'a jamais obtenu ce diplôme-là. Et on constate que ce diplôme-là était faux. Ou bien on trouve des certificats de paiement de l'impôt que tu es en ordre avec l'impôt, alors que tu n'as jamais payé l'impôt. Ce sont donc des faux dont tu n'as pas encore fait usage et tu es donc faussaire. Et si ces documents-là, on les trouve entre tes mains et on constate que c'est toi qui les as fabriqués, ou même si on ne trouve pas l'auteur, mais c'est toi qui as les documents, si tu ne justifies pas qui te les a donnés, qui les avait fabriqués, tu seras donc coupable de 6 mois, comme on dit, coupable de faux en écriture. Et donc, les faux en écriture, pour nos auditeurs, c'est qu'il y a deux infractions distinctes. Il y a l'infraction des faux, ça veut dire la fabrication, ou le port du document, la détention du document qui est faux. Et lorsque vous avez un document qui est faux, vous êtes présumé être l'auteur de ce faux. Ça veut dire que vous avez entre vos mains un document, même si vous n'avez pas fait usage, vous êtes porteur d'un document faux, vous êtes présumé être l'auteur de ce faux-là. Et lorsqu'on vous trouve en train de faire usage, donc vous allez devant l'administration, vous voulez obtenir un emploi, vous produisez une copie de votre licence, de votre graduat, de votre diplôme d'État, de votre doctorat, un document faux, c'est-à-dire là vous faites usage. Ou vous allez, n'est-ce pas, dans un supermarché avec une carte, n'est-ce pas, de crédit, mais une carte fausse. Vous en avez donc fait usage. Ou bien comme les autres fois avec des chèques sans provision. Un chèque non signé par son émetteur. Vous le signez vous-même. Donc vous avez volé un carnet de chèques. Donc tout ça, l'usage, lorsque vous avez fait usage d'un faux document, la loi telle que nous l'avons lue ici, l'article 125, présume que c'est toi, donc l'article 126, que c'est toi. Donc quand vous avez fait usage d'un faux document, vous serez puni comme étant l'auteur lui-même de ces faux-là. Quand vous en avez fait usage, vous serez puni comme l'auteur. Donc voilà un peu quelques éléments de compréhension. C'est deux infractions différentes, mais l'une comme l'autre, si vous êtes trouvé par avec le document en main, ou vous, si vous en avez fait usage, vous serez puni de la même façon.
Voilà, fabrication de faux documents, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Maître Rifin Louko, chercheur en droit, et notre invité pour répondre à vos préoccupations. Nous avons déjà des auditeurs en ligne, Simon Mandian, qui appelle de Kinshasa, et également Kovo Mukosila, qui quitte dans le Bandundu. Vous êtes intéressé, vous voulez également appeler, vous avez des témoignages. Le numéro, c'est les 081-890-6394.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Fabrication des faux documents, quelles sont les sanctions prévues par la loi? Et un premier auditeur en ligne, Simon Mandiangou, depuis Kinshasa. Bonjour Simon.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute. Et quelle est votre question?
Vraiment, je suis ravi de votre émission. La fabrication des documents, surtout dans les écoles, est devenue monnaie courante. Et je ne sais pas si le monsieur connaît ce problème, et que faut-il faire? Parce que maintenant, il n'y a plus de palmarès dans les écoles. Un enfant peut quitter une école à un mètre, à un autre mètre, à 10 minutes, il peut s'inscrire dans une autre école avec des faux documents. Et cela peut avoir des répercussions dans la vie nationale. Ces enfants-là, il y en a qui quittent la quatrième pédagogie ou la quatrième science, il va payer les faux documents pour aller en sixième année et à fin, il réussit même l'examen d'État à partir des labos. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Voilà ma première question. Ce problème d'achat des documents, vraiment, c'est une émission que vous avez bien choisie et qui est devenue monnaie courante. Même à l'université, ce problème existait. Et surtout à l'école primaire et même à l'école secondaire. Nous, notre temps, ça n'existait pas. Ma question, c'est celle de savoir ce que le monsieur qui fait cette émission-là, est-ce qu'il connaît ça ou bien il ne connaît pas ça? Quelle est la faute? La faute devient à l'État. Parce que l'État rémunère très mal les gens et un enseignant qui trouve un enfant qui vient solliciter ça, il lui fait des documents et il va faire l'inscrit dans une autre école. Celui-là aussi est inscrit. Ce problème, c'est pour tout le monde. Je vous dis et je vous remercie.
Voilà, merci à Simon Mandiangou, notre invité. Il est chercheur en droit, donc on parle plus des aspects par rapport à la loi pour ce qui est de la fabrication des faux documents, mais il pourra bien également faire un commentaire par rapport à vos propos. Si vous êtes encore en ligne, par rapport à la loi, vous avez une question à poser par rapport à la loi, parce que vous avez raison de dire que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, surtout dans les écoles, mais si vous avez une question par rapport à la loi, c'est-à-dire peut-être que s'il arrivait une personne qui a eu à tricher, comme vous savez, des faux documents et qu'il arrive à la fin de ses études, qui prévoit la loi par rapport à ça. Peut-être des questions comme ça, vous avez une idée. L'invité pourra vous bien également vous répondre par rapport à la loi. Est-ce que vous avez une question par rapport à la loi?
Exactement. Qu'est-ce que dit la loi? Mais je pense que la loi est là. Oui. Mais on n'arrête pas ces gens-là parce que c'est devenu monnaie courante. Les gens souffrent, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais c'est devenu monnaie courante et on ne les arrête pas. Et comment, qu'est-ce que la loi va faire? Parce que les gens ne sont pas arrêtés et ils ne sont pas inquiétés. Le palmarès même existe, mais le palmarès est bafoué. Vous souvenez, monsieur le journaliste, quand nous avons étudié, nous, de notre temps, un palmarès qui vient de telle école, mais l'autre école applique. Mais même c'est bafoué, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que la loi va faire? Même si la loi existait, c'est à moindre de force.
Merci Simon Mandiangou, depuis Kinshasa, à Kikwit, dans le Bandundu, Kovo Moukosila est en ligne. Bonjour Kovo. Bonjour Kovo. Il n'est plus en ligne, on pourra peut-être le retrouver plus tard. Alors on vous retrouve, Maître Rifa Louko, vous qui êtes chercheur en droit, vous avez suivi les propos de Simon Mandiangou qui vient d'appeler de Kinshasa et qui déplore que ces phénomènes prennent de l'ampleur, surtout dans les milieux scolaires et universitaires. Alors quel commentaire faites-vous à ces propos et que prévoit la loi s'il y a une personne qui a fait toutes ses études avec de faux documents et qu'à la fin de ses études, on se rendu compte qu'il s'agissait des faux documents? Qu'est-ce que prévoit la loi par rapport à cela?
Bon. Non, il a raison, le compatriote Mandiangou a raison, Marcel. La difficulté, c'est que ça fait plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans environ qu'il n'y a plus de répression des infractions dans les écoles. Lorsque nous avons étudié, je me rappelle que les faussaires, les fraudeurs qui ont fraudé étaient affichés aux valves de l'école. Non seulement ils étaient chassés, mais affichés. Et ça pouvait faire même 2, 3, 4, 5 mois d'affichage. Ton nom est là comme étant chassé de l'école parce que tu es fraudeur, tu es immoral, tu fumais du chanvre ou tu t'es bâti, ou brutal, violent. Non, tu es fiché. Et à l'époque, d'ailleurs, on communiquait à toutes les écoles. Ça veut dire, en plus du code pénal qui est la loi fondamentale et qui prévoit et réprime les infractions, donc les violations de la loi, il y avait ce qu'on appelle les règlements scolaires. Dans chaque école, dans chaque université, il y a le règlement scolaire, le règlement académique, c'est-à-dire qui relaye les codes et qui spécifie la particularité d'autres infractions, c'est-à-dire d'autres fautes qui sont inacceptables dans telle école, dans telle université, dans telle institution, dans tel couvent, dans tel petit séminaire, dans tel grand séminaire. Et ces règlements-là, en quelque sorte, renforçaient la répression. Et chaque fois que tu violais le règlement, c'est non négociable. On sanctionnait. Et souvent, la sanction était l'exclusion de l'école.
Et puis vous vous rappelez à l'époque où on sanctionnait les enfants et les parents, comme on dit à Kinshasa, bah, si mi moutou, moi n'a aucun autant que souak. L'enfant il est encore étudié ou parce qu'il est chassé de la meilleure école et que son image est ternie parce que toutes les autres écoles vont suivre. Il ne va pas l'accepter.
Alors maître Rufin, avant d'avoir notre auditeur qui est en ligne, Roli Konga, qui nous appelle de Guimena à l'Équateur, on aimerait savoir quelqu'un qui vient de finir ses études, mais sur base de faux documents, et que cela arrivait à, comment dire, on découvre ça à la fin de ses études, mais il a déjà son diplôme. Qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à ce cas de figure?
Le diplôme ne va rien, donc ça sera un nil. Donc rien ne peut provenir. C'est une expression latine. D'Inéa, rien ne peut provenir. Comme on dit, la fraude corrompt tout.
Oui.
La fraude corrompt tout. C'est pourquoi d'ailleurs nous déconseillons aux gens de faire ça, ça rattrape toujours. Nous avons déjà dit sur Radio Capir, il y a un des premiers ministres d'autre pays, un premier commissaire d'État, qui avait fraudé dans sa vie académique. Et la fraude l'a rattrapé dans les affaires. Je ne cite pas son nom, mais c'est connu de tous les chercheurs que la fraude rattrape toujours. Donc, si vous avez obtenu déjà votre diplôme, pendant que vous avez fraudé telle classe, tel autre niveau d'études, eh bien, dès qu'on les découvre, ce diplôme-là sera annulé. Il suffit que quelqu'un dépose plainte, le diplôme sera annulé.
Voilà, nous avons Roli Konga qui appelle de Guimena dans la province de l'Équateur. Bonjour Roli.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à tous les auditeurs de Calpi.
On vous écoute?
Oui, moi je ne sais pas si l'État vraiment existe en République démocratique du Congo. Parce que si l'État existait en RDC, il devrait quand même sanctionner toutes les personnes qui font tous ces problèmes-là. Le problème de la falsification des faux documents va être à Guimena, monsieur le journaliste. Vous allez remarquer qu'un enfant qui a échoué dans la classe et il part chez un professeur pour en fait lui fabriquer un bulletin pour lui permettant de monter dans la classe supérieure. Mais de pareils cas n'est pas sanctionné par les autorités compétentes ici dans les territoires de Guimena, précisément dans la cité de Guimena. Maintenant, je voulais poser ma question à notre invité.
Oui.
Est-ce que si un élève recourt auprès d'un professeur pour qu'il lui fabrique un bulletin, est-ce que c'est le professeur qui sera sanctionné ou c'est l'élève qui sera sanctionné? Merci, c'est Roli depuis Guimena.
Merci Roli Konga depuis Guimena, dans la province de l'Équateur, à Mbujimayi, dans le Kasai Oriental. Fidel Katanda est en ligne. Bonjour Fidel. Bonjour Fidel. Bonjour. Fidel, vous êtes en ligne, allez-y, on vous écoute. Vous êtes en direct.
Oui, j'ai un cas que j'ai vécu. Il fallait expliquer au maître Rufin.
Oui.
Je salue en passant pour lui poser directement la question.
C'est bon, allez-y.
Bon, il y avait un ingénieur informaticien. Il était un ami d'un monsieur comme ça. Ce monsieur-là n'avait pas terminé à la première session. Donc, il devait attendre les examens de la deuxième session pour qu'on lui délivre l'attestation de confirmation des réussites.
Oui.
Bon, il a remis l'argent à son ami, l'ingénieur informaticien, pour scanner une attestation plutôt de notre étudiant dans son nom. Et l'ingénieur informaticien l'en a fait et c'est sorti. Je ne sais pas comment est-ce que les ingénieurs le font. Et après, l'étudiant en soi qui attendait les examens de la deuxième session a été attrapé en flagrant délit. Et il n'était pas puni à ma présence. J'ai vécu ça. C'est quelque chose que je vous raconte que j'ai vécu. Et lorsqu'on a suivi de plus près, parce qu'il était le neveu de X, parce qu'il était cousin de X, je ne sais pas. Je pose la question à Maître Rufin. Pour cet acte-là, la faute appartenait à qui? À l'ingénieur informaticien qui avait scanné les documents, ou aux autorités académiques, ou à l'étudiant en soi lui-même qui voulait vite, parce qu'il cherchait déjà l'emploi, il voulait avoir l'attestation directement avant d'attendre les examens de la deuxième session. Voilà l'unique question que j'avais posée à Maître Rufin. Le reste, je vous souhaite un bon début de semaine. À vous, la radio Okapi.
À vous également. Bon début de semaine, Fidel Katanda. Vous avez appelé de Mbujimayi au Kasaï oriental. On va retourner dans la province de l'Équateur et toujours dans la même ville de Guémina. On va retrouver Jean Vico. Bonjour, Jean Vico.
Bonjour, Radio Okapi.
On vous écoute, Jean Vico. Quelle est votre question par rapport à ces sujets sur la fabrication des documents? Quelles sont les sanctions prévues par la loi?
J'ai quelques questions à poser à la presse. Ici à Guémina, vous savez, le monde est devenu maintenant le monde des jobs, c'est-à-dire des copes. Si vous étudiez avec quelqu'un, même vous le dépassez avec 4 années, plus tard, pas même 3 ans, il est devenu du même niveau que vous êtes. Ça provient des fabrications de bulletins. Et si ce bulletin-là, ce qu'il autorise, que c'est un vrai bulletin, c'est le cachet des cernis. Mais, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est celui-là, vous le dépassez à 2 ans. Mais comment il est arrivé à ce niveau? Ça provient des fabrications de faux documents. Et si ces documents, il y a le cachet des cernis, est-ce qu'il y a la vérification des dossiers au bureau du CERNI ou pas? Parce que si au CERNI, seulement s'il voit la présence du bulletin, il met la cachette. Mais ça provient de quoi? C'est ce que j'ai à poser à notre invité. S'il a des réponses, il peut nous donner.
Voilà, il va vous répondre. Il va vous répondre tout à l'heure, Jean Vicodé. Vous avez une autre question?
Oui.
Allez-y alors. Allez-y.
Je veux demander, est-ce que la loi de l'enseignement, il n'y a pas un article qui peut mettre à disposition une sécurité et la validation des vrais documents, et il ne peut pas mettre ici si les vrais bulletins pour qu'on différencie les faux et les biens.
Voilà, c'est bon. Merci Jean Vico d'avoir appelé de Guémina dans la province de l'Équateur. Maître Rifan Luko, on retourne à vous qui êtes chercheur en droit. Voici d'abord cette question des reliques Kunga qui a appelé de Guémina, l'Équateur, qui a demandé entre l'élève qui va voir un professeur pour qu'on lui fasse un faux bulletin et le professeur qui a fait les faux bulletins, c'est qui doit être puni par la loi.
Reli de Guémina, bonjour également. Fidèle de Kananga, Isa Victor de Guémina également, bonjour. Alors, je commence par celui qui a posé la question de l'élève et de l'enseignant. Non, tous ceux qui ont collaboré au fond sont punissables de la même façon. Non, tous ceux qui ont participé, on appelle ça la participation criminelle, c'est-à-dire tous ceux qui ont coopéré pour que les faux soient effectués, à commencer par les demandeurs ou le requérant, et les serveurs, ça veut dire celui qui a radi, entre guillemets, service et de fabriquer ces documents-là, tous sont auteurs ou co-auteurs de ces faux-là. Co-auteurs, ça veut dire tous sont auteurs à la fois. Donc, ils sont punis de la même façon. Donc, là, il n'y a pas de prévention. En ce qui concerne celui qui a scanné, donc, la question des fidèles de Kananga, celui qui a scanné...
Qui était pressé... Qui était pressé
d'avoir vite, et tout ça. Non. Le problème, c'est que Marcel, ça prospère parce que nous ne dénonçons plus. Vous savez déjà, donc, dans les années 60, 67, 70, 69, lorsqu'on a établi les concours, les tests nationaux qu'on appelle les diplômes d'État, eh bien, on a décidé, les gouvernements avaient décidé à l'époque que tous les diplômes nationaux soient signés, tous, donc toutes les provinces réunies soient signées par une seule autorité, c'est-à-dire les ministres de l'Éducation nationale. Que ce soit le diplôme d'État, que ce soit le diplôme de graduat, que ce soit la licence, les doctorats, tous ces diplômes-là, selon nos lois, c'est assigné par l'autorité centrale qui est à Kinshasa, très loin de toutes les provinces. Ça veut dire on essayait de sécuriser davantage nos documents. Mais les faussaires, comme ils sont très intelligents, ils sont très risés, et fabriquent, donc, même il est très peu signé à la place du ministre, il suffit qu'il ait l'ingéniosité d'imiter la signature du ministre. Alors, ça prospère parce que l'on ne dénonce plus. L'on est plus fier de ça. Attends, lorsque vous vous rappelez, les étudiants de l'Imikid, de l'Ovanium, les étudiants de l'université de Kinshasa, de Sangami, les Boyomé, les étudiants de l'université de Lumbashi, les Kassapa, les étudiants de l'IPEN, de l'ISP, des ISTEM, ont souffert pour devenir des gradués, devenir des licenciés. Nous avons souffert. Nous, à l'époque, en ce qui nous concerne, rescapés des massacres de Lumumbashi, nous avons souffert pour devenir gradués, nous avons souffert pour devenir licenciés, nous avons souffert pour devenir docteurs. Et je ne suis pas donc prêt à accepter quelqu'un faire beaucoup de bruit lorsque je sais que lui a à utiliser des faux documents pour passer des promotions. Je vais le dénoncer. C'est cette fierté-là que les Congolais disent. Parce que maintenant, nous tous, nous obtenons de la manière la plus facile beaucoup de diplômes, et nous ne sommes plus fiers des diplômes que nous obtenons, parce que nous obtenons ça gratuitement presque. Alors, ceux qui ont obtenu les diplômes difficilement, avec peine, ils sont fiers de leurs diplômes, et ils ne permettent pas que d'autres personnes, des faussaires comme l'autre de Guémen, a dit que non, il était derrière moi de 4 ans, et le lendemain, il me pose un diplôme, et il est devenu comme moi, ou il m'a même dépassé. Vous devez dénoncer ça, parce que vous avez les preuves que vous l'aviez laissé dans les classes, dans les promotions, et il vous saute, il vous traverse, comme on dit, à l'équipe au cacaboyé, parce que tout simplement, il a fraudé. Vous devez le dénoncer. Ça prospère parce que la population ne dénonce plus. Il y a beaucoup trop d'antivaleurs, beaucoup de préventions, d'infractions qui prospèrent dans notre pays parce que nous ne dénonçons plus les faussaires, les escrocs, les menteurs, les fraudeurs ne doivent plus prospérer aux côtés de nous. Nous devons les dénoncer, soit auprès de la justice, soit à l'université ou à l'institution où il est en train de prospérer dans sa fraude, dans l'exercice de ses faux. Donc, nous devons collaborer avec la justice pour que les antivaleurs soient sanctionnés. Il faut dénoncer ça auprès de son chef, auprès de son mari, auprès de son épouse, auprès de son pasteur, auprès de son imam, auprès de son abbé, auprès de l'archevêque, pour que nous tous, nous contribuions à éradiquer les faux et les fraudes parmi nous, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup trop de faussaires, surtout comme vous le remarquez, vous tous, sur les tables internationales, dans les écoles, dans les institutions supérieures, dans les universités, et en particulier, vous voyez, un vieux qui était un fonctionnaire, il a fait 10 ans, et vous le trouvez, quelques jours après, il a une licence, il a eu ça comment, parce que vous ne le voyez pas quitter le bureau pour aller étudier, il a eu une licence. Donc, tous ces faux-là doivent être dénoncés pour qu'ils soient réprimer et que la justice puisse annuler, parce que la conséquence du faux devant la justice, c'est toujours l'annulation. Donc le juge, la première chose qu'il fait lorsqu'il constate que le document est faux, c'est annuler le document. Et souvent, dans la jurisprudence nationale, on a toujours ordonné ce qu'on appelle la confiscation du faux et sa destruction.
Et maître, prenons le cas de demandeurs d'asile, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, une personne vient demander de l'asile et puis présente des faux documents, et là, c'est comment ça se passe?
Mais c'est la même conséquence. Rappelez-vous, il y a un Caresa que vous avez diffusé sur nos antennes radio Capi ici, d'un de nos joueurs qui a quitté V-Club, qui est parti dans un pays voisin. Il est appelé avec une identité, il s'est retrouvé là-bas avec une autre identité. Vous savez la sanction que la FIFA et la CAF viennent de prendre. Vous savez la sanction. Les faux rattrapent toujours les faussaires. Les faux rattrapent toujours les faussaires. Mais beaucoup, tous ces ngoulous qui vont en Europe, ils sont chassés. Pourquoi? Ou bien ils sont entassés dans des prisons d'asile là-bas. Au lieu qu'ils soient dans un local d'asile, il est dans une prison d'asile. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que la plupart des documents qu'il a produits étaient des faux. Vous vous rappelez même à la CPI dans les procès Jean-Pierre Demb. On a produit des faux et vous savez la conséquence. Ça fait... Les faux rattrapent toujours. Donc, qu'est-ce que soit ce qu'il faut faire? Vous pouvez faire 2 à 3 ans, mais les faux rattrapent toujours. Et c'est pourquoi le législateur a dit que non, l'usage du faux ne se prescrit pas. Aussi longtemps que tu peux faire usage de ce document-là, les fractions sont en train d'être consommées. Nous conseillons à tous ceux qui sont dans ces, qui ont la propension pour les faux, qui sont dans ce domaine-là, qui se rappellent que les jours où les pays, les services, tout se fonctionne, et que la justice fonctionne normalement, ils seront rattrapés. Comme le cas de ce premier commissaire d'État qui a été rattrapé.
Et maintenant, récidiviste.
Pour fraude, parce que tout simplement, il avait écrit, trompé tout le monde, mais l'État l'a rattrapé, il a été rattrapé.
Et un faussaire récidiviste, les sanctions sont encore les mêmes sanctions, ou bien c'est encore lourd.
Là, c'est ce que nous dénonçons chaque fois sur vos antennes ici, le fait que nos lois sont trop par état. Nous avions déjà proposé même, bon, c'est vrai, il y a le code pénal congolais qui est en train d'être révisé, nous avions même été associés à cette commission-là, à la commission de réforme du droit congolais. Eh bien, le code est en train d'être révisé, je crois que davantage toutes ces propositions-là seront retenues. C'est que les faussaires, comme les escrocs, nous avons vu un escroc qui a été condamné, escroc, ministre de culte, et il a repris à enseigner les gens, il a repris à donner des leçons alors qu'un escroc ne doit plus avoir le droit de donner des leçons aux gens, il ne peut plus continuer. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'en ce qui concerne les faussaires aussi, qu'on rajoute, comme pour la corruption et le détournement, les sanctions complémentaires, les sanctions supplémentaires, ça veut dire l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques, l'interdiction de droit, de l'exercice de son droit de vote et son droit à l'électorat. Donc bref, qu'il y ait des sanctions qui renforcent la répression en ce qui concerne les faux, parce que rappelez-vous, aujourd'hui, dans nos cours de tribunaux, l'infraction la plus commise par les Congolais et les expatriés qui sont chez nous, c'est les faux en écriture et les viols. Les faux en écriture et les violences sexuelles. C'est ceux-là, les infractions qui préoccupent toutes nos juridictions. Chaque fois que vous allez dans un procès, assister au cours de tribunaux, au procès dans les palais de justice, vous ne manquerez pas de constater que les infractions qui reviennent les plus récurrentes aujourd'hui, ce sont les faux en écriture et les risages et les violences sexuelles. Alors, comme ce sont donc les infractions qui défraient la chronique, il faut absolument, absolument que la répression puisse être renforcée et proportionnelle à cette recrudescence, en fait, de faire reculer les phénomènes par une forte impression intimidante à tout ce qu'il faut ça. Parce que si, par exemple, on renforce que non, les faussaires à l'école seront affichés et leurs noms seront envoyés dans toutes les provinces.
Maître,
on va... que ça ferait comme conséquence, comme effet intimidateur à tous ceux qui commettent ces infractions-là, envoyés dans toutes les provinces, dans toutes les écoles. Vous voyez, et éventuellement même promulgués dans des médias. Parce que vous avez été rattrapé fraudeur à l'examen, vous avez été rattrapé avec des bulletins faux, et bien vous serez diffusé sur l'état du territoire national. Vous
voyez que ça va... Maître Riffin, on va prendre deux derniers auditeurs qui sont en ligne, qui sont en ligne, oui, et qui attendent Simon Tshishimbi, qui appelle de Kananga, dans le Kasai Occidental, et puis Ignace Ndala, qui est à Kolwezi, dans le Katanga. Simon Tshishimbi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, quelle est votre question?
Bon, j'avais posé, ma question était, vous parlez sur les faux documents. J'avais posé une question, comment un faux document?
Et comment reconnaître un faux document, c'est ça?
Ouais, je veux connaître
d'accord.
Qu'est-ce qu'un faux document.
Voilà, et qu'est-ce qu'un faux document? L'invité va avoir nous expliquer, il en a parlé, mais il va revenir pour vous, notre auditeur Simon Tshishimbi, vous avez appelé du Kananga, dans le Kasai Occidental. Et puis on prend le dernier auditeur, Ignace Ndala, qui appelle du Kolwezi, dans le Katanga. Ignace, bonjour.
Bonjour Marcel, deux pistes de préoccupation. La première, c'est qu'on a constaté dans nos écoles, lors de l'établissement des bulletins, par exemple, il peut y avoir des petites erreurs. Nous, il y a eu depuis un certain temps l'habitude d'utiliser le blanco, l'encre de correction.
Oui.
On efface, alors qu'il y a sur les documents de mention qui dit que toute rature annule les documents. Sérieusement, malgré ces petites ratures, l'usage du blanco, ce document est en train de circuler. N'est-ce pas là un faux? Ça, c'est la première préoccupation.
Oui.
La deuxième préoccupation, il y a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui qui circulent avec des photocopies de la carte d'électeur. Je voudrais savoir si l'État autorise des photocopies de la carte d'électeur et circuler avec, et ou alors si cela est faux et quelle est la sanction par rapport à la loi.
Merci Ignace Ndala, vous avez appelé du Kolwezi dans le Katanga. Maître Riffin, on va vous retrouver pour répondre à ces deux auditeurs. Il y a d'abord Simon Tshishimbi qui a appelé du Kananga, qui voulait que vous rappeliez encore comment reconnaître un faux document, c'est quoi un faux document. Et vous avez également suivi Ignace Ndala qui a demandé il y a deux fois, il y a l'encre correcte, c'est qu'on appelle blanco pour effacer et puis rajouter sur un document officiel. Il a demandé si cela est permis, si ce n'est pas un faux. Et puis il a parlé des cartes d'électeur. Peut-être que vous avez également une idée par rapport à ça, la photocopie d'une carte d'électeur. Lorsqu'une personne circule avec ça, il y a des sanctions par rapport à cela, d'après la loi.
Voilà, donc vous avez... bonjour Tshishimbi de Kananga. Sa question est très courte, mais peut résumer toute l'émission. Comment reconnaître un faux document? Qu'est-ce qu'un faux document? Cette question-là peut résumer toute l'émission, Marcel. Alors, il a tellement raison, qu'est-ce qu'un faux? Alors, d'abord, des principes. Pour connaître les faux, il faut connaître l'original. C'est-à-dire, pour identifier les faux, lorsque vous devez savoir que non, cette bière n'est pas conforme à telle autre, il faut donc que la bière originale, vous la connaissez, vous savez sa saveur. Donc, pour tout, celui qui veut connaître un faux, il doit savoir l'original. Et l'original, c'est celui qui a été obtenu régulièrement, contient les mentions conformes et régulières et est signé à la date de ces documents et par l'autorité compétente à les signer. Voici donc les quelques éléments pour identifier les faux et l'original. Alors, ça peut être un faux
tout comme on dit les faux vrais. Ça peut être un faux document, mais il a les apparences d'un document vrai. C'est un faux document, mais tout ce qui est dedans, n'est-ce pas, est conforme. Parce que tout simplement, il a été imité fidèlement. Il a été imité. Donc, il faut être technicien avec des yeux professionnels pour identifier. Surtout lorsqu'on parle des professionnels d'imitation des signatures, les documents peuvent avoir toutes les apparences, n'est-ce pas, de l'original. Mais lorsque vous allez vérifier au service compétent, vous allez voir que ce document-là n'est pas reconnu dans le registre. Et souvent, c'est le cas, n'est pas reconnu dans le registre. Et si on l'a intercalé dans le registre, ça a été par une surcharge. Alors donc, bref, il faut donc une enquête pour découvrir les faux documents. Et les faux documents, c'est toujours par dénonciation. Et lorsqu'on dénonce, soit par la victime qui a perdu son document qu'on est en train d'utiliser, ou donc qui s'est vu être opposé à un faux document, si la personne ne dénonce pas, on ne saura pas découvrir que ce document était faux. Alors par rapport à celui qui a posé la question de la tire,
oui.
Par rapport à celui qui a posé la question de la tire et qui a même répondu à M. Tshimbi en partie, lorsque les documents prévoient déjà, il y a beaucoup de documents officiels, ce qu'on appelle les imprimés de valeur, qui déjà mentionnent que ces documents ici, ces documents que je suis, si je contiens des ratures, je deviens nil. Le document déjà lui-même contient cette mention-là, que lorsqu'il y aura des surcharges ou des ratures, ce document est nil. Et donc, le principe, c'est que dès qu'il y a une surcharge, parce que souvent, ceux qui établissent ce document-là, dès qu'il se raconte qu'il s'est trompé sur une mention, une lettre ou un chiffre, il annule tous les documents parce que ces documents-là ne supportent pas qu'ils contiennent des ratures ou des surcharges. Alors, si le document est en train de circuler avec des surcharges ou des ratures ou des grattages, alors qu'il prévoit que lui, dès qu'il a ces mentions-là obscures et floues, est nil, vous devez donc considérer que ce document-là est nil et le dénoncer dès que vous le voyez être utilisé, être opposé devant vous ou devant les services de l'État. Donc voilà un peu le principe, c'est que qui a des ratures, voilà. Alors qu'il ne devrait pas l'être, est déjà nil par principe.
La dernière question sur la carte d'électeur, une photocopie, on a plus
assez de temps. La carte d'électeur, Marcel, c'est une pratique nouvelle. Vous savez donc déjà depuis un temps, dans la plupart des services, on estime que non. Alors, avec surtout l'informatisation, on sait que la platification des documents fait que les documents qui sont platifiés, les cartes platifiées, se détruisent facilement. Et la population a considéré que non, ma carte d'électeur, comme on ne les délivre pas régulièrement, parce qu'à l'époque, il y avait des attachés de perte de pièces, aujourd'hui, on n'en délivre plus. Si je perds mon original, ça sera une catastrophe pour moi. Autant photocopier en couleur, et souvent, on les miniaturise, donc on les réduit. Et on les met en poche, ce qu'il a, même les permis de conduire, même les cartes d'offre de véhicules. Évidemment, faire usage de la photocopie lorsqu'on a l'original, ce n'est pas l'altération de la vérité.
Voilà,
ce n'est pas l'altération de la vérité. Et donc, la population, si cette question-là, parce qu'il a l'original, soit à la maison, et c'est lui n'a pas gratté, n'a pas altéré la vérité. Il a juste pris des précautions, parce que s'il a déjà de l'État ou le policier de la circulation routière ou bien de tous les services compétents, lui demande l'original, il peut le produire, et bien là, il n'y a pas, par principe,
c'est bien.
Il faut un écriture ou son usage.
Voilà, c'est bien clair. Maître Riffin Louko, chercheur en droit, merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ces questions sur la fabrication des faux documents. Quelles sont les sanctions prévues par la loi? Merci beaucoup, on vous retrouve à une prochaine occasion.
C'était un grand plaisir également à moi de parler à tous nos auditeurs et à partir des provinces également, moi également à la province.